J'ai envie de proclamer la paix sur vos vies, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Sans moi, disait-il, vous ne pouvez rien faire. N'essayez pas. Vous ne pouvez rien faire. Ni la sagesse humaine, ni les dons naturels, ni quoi que ce soit ne pourront nous faire pénétrer les choses de Dieu, puisque c'est par grâce et surtout par la puissance de Dieu qu'on les pénètre, par le Saint-Esprit. Je vous lis le texte de base qu'on peut trouver en Colossiens 2:7 et 2:10 aussi. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. Colossiens 2:10, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Alors, je ne peux pas introduire ce message sans faire un court survol du monde dans lequel on est, qui va à sa perte, on le sait, mais de quelle manière? Et si on veut connaître bien souvent l'avenir, il faut regarder le passé, notamment dans les choses bibliques. Et on découvrira que Babylone et l'esprit de Babylone est toujours bien réel. Si la ville de Babylone n'existe plus telle qu'on l'a connue au début, avec son roi Nimrod, l'esprit qui l'animait, la puissance qui l'animait, non seulement existe encore, mais a décuplé sa puissance. On le sait, la Bible le prédit, les derniers temps seront des temps très mauvais. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on se le rappelle. L'amour du plus grand nombre se refroidira et l'esprit de l'Antichrist va travailler de plus en plus fort pour introduire dans l'Église l'apostasie. Et je ne parle pas seulement des Églises institutionnelles, je parle aussi de nos Églises à nous, de nos familles. Il va s'acharner pour faire entrer des choses profanes, afin que nous tombions dans l'apostasie. Il faut le savoir. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous le rappelle. Et cette parole est tellement d'actualité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire, au-delà de tout ce que tu crois dans ta vie comme étant prioritaire, sache que la priorité des priorités et celle que tu dois transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants et de génération en génération, c'est de se préparer au retour du Seigneur, de se préparer à rencontrer le Seigneur, de se préparer. Et je pense même que ça va avant l'évangélisation du monde, qui est tout aussi importante, évidemment. Mais nous avons une responsabilité. Si Dieu a tout accompli, nous avons notre responsabilité. Cet esprit de l'Antichrist est là. Lorsque nous nous élevons un petit peu et que nous contemplons d'une manière un peu globale ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons que trembler parce que il est à l'œuvre d'une manière phénoménale. Que ça soit dans le pouvoir politique, que ça soit dans le pouvoir de la santé, que ça soit dans le pouvoir financier, commercial, etc., industriel, il est présent comme jamais. Et c'est exactement ce qu'il veut remettre, ce qu'il veut, mais multiplier, c'est ce qui se passait à Babylone à l'époque. C'est-à-dire, on le voit dans l'Apocalypse, ce monde de l'industrie et du commerce qui doit nous captiver et qui doit absolument rendre captives nos pensées dans quelque chose qui n'est pas céleste. Le monde industriel, le monde du profit, le monde sans cœur, sans foi ni loi, qui a pour but même pas de gagner le monde, mais le commerce des âmes. Et c'est bien le but que s'était donné Nimrod au début de l'humanité avec Babylone et sa tour de Babel, c'était le commerce des âmes. Vous pouviez venir à Babylone avec votre religion, avec votre façon de vivre, pourvu que vous vous soumettiez à la loi de la ville. Et là, tout allait bien. Vous pouviez même, à un moment donné, ils avaient le culte à l'Éternel, lorsqu'ils ont été captifs à Babylone, et même, ils étaient tellement bien qu'il n'y a que 10% qui sont rentrés du temps de Néhémie, et les autres sont restés à Babylone. Tant cette séduction puissante par l'esprit de l'Antichrist était présente, et c'est la même qui est présente aujourd'hui. C'est la même qui est présente aujourd'hui, plus que jamais. Le commerce des âmes. Ce qu'il veut, c'est ravir les âmes. Ce qu'il veut, c'est rendre captifs les âmes. Nous pouvons fréquenter autant d'églises que nous voulons. Si notre âme est captive par l'esprit de Babylone, alors nous serons en position de faiblesse. Et pourquoi je dis ça? Parce que les fléaux qui vont s'abattre sur le monde et tout ce que Dieu a en réserve pour éprouver les habitants de la terre vont avoir lieu sur les croyants, sur les non-croyants. Regardez le Covid. Et de la même manière qu'il y a eu des drames dans des familles chrétiennes, il y en aura encore si notre maison n'est pas fondée sur le roc. Et les tempêtes vont se faire de plus en plus fortes, parce que la tempête a pour but d'ébranler et d'éprouver les choses qui sont profanes dans ce monde, les choses qui ont été construites, édifiées, comme à l'époque la ville de Babylone, qui ont été édifiées sur les fondements démoniaques. Il faut savoir que la ville de Babylone était gouvernée par Nimrod, qui était puissamment fortifiée par les démons. Et on peut faire cette analogie entre l'échelle de Jacob qui descendait du ciel vers la terre avec les anges de Dieu pour bénir Jacob, vision du Christ qui allait être la porte, l'échelle de Dieu entre les cieux et la terre avec les anges qui seraient là pour bénir les chrétiens, les enfants de Dieu. Un parallèle avec la tour de Babel, qui elle est une singerie, une imitation de cette échelle de Jacob, qui a pour but aussi de gagner le ciel, mais de rejoindre le ciel, mais sans la puissance de Dieu, sans Dieu, simplement par la sagesse des hommes. Et sur cette tour de Babel, actuellement encore présente, il y a une puissance qui déferle et qui descend et qui monte dans ce monde, ce sont les puissances des ténèbres, qui, elles aussi, des cieux à la terre, apportent, eh bien, ce qu'il y a de plus vil, ce qu'il y a de plus machiavélique, ce qu'il y a de plus horrible, l'essence même, la nature même du dragon, du serpent ancien, la destruction, la captivité des âmes et la destruction de l'œuvre de Dieu. Systématique, la destruction et on le voit notamment dans quelque chose qui a été institué avant la loi de Moïse, la famille. La destruction de la cellule familiale, qui est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu parce qu'elle symbolise le retour de l'épouse, le retour du Christ et son association avec l'épouse, son l'époux, l'épouse, etc. Quelque chose que Dieu voyait déjà avant même la crucifixion du Seigneur. La destruction systématique de tout ce que l'Évangile a pu apporter dans ce monde. Et nous vivons des temps où ces choses s'accélèrent. Et donc, la Bible, je dis ça pour pour bien placer le décor. Et nous sommes dans ce temps-là. Et nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, plus le temps va passer, plus ces choses vont s'assombrir. Et on va aller vers quelque chose qui est en préparation à la présence et au gouvernement d'un nouveau Nimrod, c'est-à-dire l'Antichrist, qui viendra comme une personne pour gouverner. Et là, ça va être chaud. Et toute l'œuvre qui est en train de se faire est une préparation au gouvernement de l'Antichrist qui va venir. Et c'est pas la peine de prier pour qu'il ne vienne pas. C'est écrit. C'est pas la peine de prier pour que les fléaux ne viennent pas. Ce sont des jugements de Dieu qui vont s'accomplir. Ce n'est pas la peine de prier pour que les épreuves, cette épreuve qui va éprouver tous les habitants de la terre, nous soient épargnées. C'est écrit. Alors la solution, elle est où? Pour nous. Eh bien, le Saint-Esprit veut nous le rappeler ce matin. Que dans ce monde de ténèbres, qui va aller de plus en plus profondément dans les ténèbres, et il faudrait qu'on parle de la science. Et là, j'ai pas envie de vous faire peur. Bientôt, on aura des puces, mais dans la tête, où on pourra, je parle pas du signe de la bête, hein, mais où on pourra communiquer comme un téléphone avec une autre personne et il y a un grand risque. Les choses vont être accueillies parce que ça va être quelque chose de révolutionnaire, tout le monde va applaudir, mais on pourra captiver, on pourra emprisonner vos pensées, on pourra les lire. Bref, je ferme la parenthèse, on va vers ces choses. Il faut se préparer, il faut les accepter. On est dans un combat à mort. La Terre est le lieu de rencontre d'un conflit cosmique entre le bien et le mal, entre le dragon et le prince de paix, entre les puissances des ténèbres et les puissances célestes. Et nous sommes l'enjeu, quelque part. Nous sommes l'enjeu. Nous sommes dans un conflit extraordinaire. Dans ma prière, je parlais de la grâce de Dieu. Vous la comprenez, on la comprend peut-être un peu mieux. La grâce qui nous est faite. Parce que Dieu nous garde dans sa main. Seulement, notre responsabilité, elle est là. Enracinée et fondée en lui. Ça, c'est quelque chose qui a été accompli lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur. C'est quelque chose qui ne peut pas être vaincu si nous gardons en mémoire tout ce que je viens de dire. Combattre le bon combat de la foi avec les armes spirituelles. Parce que nous serons comblés uniquement en étant enracinés en lui. Et il y a des maisons qui, malheureusement, dans l'Église, on l'a vu et on le verra encore, qui ont été construites sur du sable. Donc, la tempête, elle va venir, tôt ou tard, et elle vient heurter nos vies, tôt ou tard, et quelle que soit l'apparence quel que soit le manteau qu'elles peuvent se revêtir, les tempêtes sont là pour, justement, on l'a dit, éprouver les choses, pour faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Ce qui est profane, c'est tout ce qui est construit sur le sable, ça ne peut pas tenir, ça s'effondre, parce que la tempête vient de Dieu. Et donc, il y a une puissance qui est là pour abattre ce qui doit être abattu. Et c'est la même chose dans nos vies, mais d'une manière éducative, on l'a compris, d'une manière disciplinaire, mais en termes de discipline, pas disciplinaire, hein, pour nous aider. Et la Bible dit même en hébreu pour nous aider à ce que ce qui est boiteux ne dévie plus et nous faire participer à sa sainteté. Donc c'est hyper positif. Mais là où je voudrais maintenant m'arrêter, c'est pratiquement, d'une manière pratique, comment être enraciné en Christ. Et comment le rester? Parce que Avoir été placé en Christ est une chose, mais après, demeurer en Christ. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que dans les églises de l'Apocalypse, vous avez des vainqueurs, vous avez des vaincus. Il y a quelque chose qui est de notre responsabilité. Quelque chose que nous devons absolument mettre en place, ou alors agrandir dans notre vie, dans ce domaine-là, pour résister aux temps qui vont venir et qui sont déjà là. Être enraciné. Seigneur, comment pratiquement? Alors, en méditant ces passages, j'ai eu cette image d'un arbre qui, quand vous voyez les arbres sur les flancs de collines ou les falaises au bord de la mer, vous voyez des arbres qui essayent de pousser sur les côtés. C'est pas facile, je sais pas comment ils font, mais ils rentrent pas dans la roche. Ils contournent la roche et ben ils poussent sur du sable, sur une terre friable, sur quelque chose qui n'est pas solide et un grand coup de vent et ben ils sont déracinés, ils sont emportés. Et cette image consistait, je voyais des racines qui pénétraient la roche. Une puissance qui permettait à nos vies de pénétrer le roc. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La grâce de Dieu qui nous a mis comme Moïse dans le creux du rocher. Et qui un jour fera passer sa gloire devant nous. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Nous avons été une même plante avec lui. Nous sommes une même plante. Et je voyais ces racines, par la puissance de Dieu, pénétrer la roche, et cet arbre prenait vie, portait du fruit, non pas parce qu'il était par lui-même quelque chose, ou parce qu'il se servait de Dieu, mais parce que le rocher des siècles lui donnait toute la vie, tout ce dont il avait besoin. Et outre tout ce dont il avait besoin, il y avait une chose dont l'arbre avait besoin, c'est de rester inébranlable dans les temps qui allaient venir. Inébranlable. Oh, le vent viendra, les feuilles tomberont. Il sera secoué, détrempé, quelques branches le casser. Peut-être qu'il pliera un petit peu aussi. Moi, je plie souvent. Mais inébranlable, indéracinable, bâti sur le roc, bâti en Christ, en lui. Et dans ces cas-là, toute la force et la puissance de Dieu passent dans cet arbre, qui est devenu un, c'est l'image du sarment sur le cep, qui, il y a une fusion entre les deux, qui permet à la vie de Dieu de passer, la vie de résurrection, la vie éternelle, cette vie d'après la crucifixion, oui, la résurrection, mais avec tout ce qu'elle comporte, c'est ça que je veux dire, tout ce qu'il est pour nous. Notre sagesse, notre paix, notre joie, notre justice, notre sainteté, notre éternité, il est notre guérison, il est tout, pleinement tout. Il est le tout accompli. Toutes les promesses qui sont en lui passent dans le sarment et lui donnent la vie et lui donnent de porter du fruit à la gloire de son nom. Et ces fruits-là, comme ils sont basés sur le roc, eh bien, lorsque la tempête viendra, eh bien, ces fruits tiendront et seront vraiment quelque chose à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Des fondations sur le roc, des fondations dans le roc, par la puissance de Dieu. Et je me disais, pour terminer cette image, comme il faut absolument retrouver cette humilité, pour chercher encore la grâce de Dieu. Pas se croire supérieur, comme l'église de Laodicée qui pensait être arrivée, avoir besoin de rien. Elle savait pas, parce qu'à force elle était devenue aveugle. Elle savait pas qu'elle était pauvre, aveugle et nue. Elle avait besoin d'un collyre. Elle avait besoin de la grâce. Et là encore, le Seigneur se tenait à ses côtés pour pouvoir lui offrir ce collier, si elle était demandeuse. Cette humilité dont David a fait preuve lorsqu'il a fait cette prière, ô Dieu, psaume 61, versets 1 à 3, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Qu'est-ce qu'il va dire là, quelque chose de merveilleux? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et avait compris que sa sagesse, toute son intelligence, ses propres forces ne pouvaient rien. Il avait compris. Et ça l'a aidé à se tourner vers Dieu. Ça l'a aidé à plier le genou et à demander grâce, grâce, grâce à Dieu pour arriver sur ce rocher du salut, ce rocher éternel. Et quelqu'un disait, quelqu'un racontait cette petite histoire que dans le désert, en Israël, les Bédouins plantaient leurs tentes dans les lits des rivières pour accéder plus facilement aux eaux. Mais il fallait faire attention parce que quand la saison des pluies arrivait, ils avaient intérêt à déménager. Logique. Mais il y avait quelque chose de particulier. C'est que ils pouvaient très bien mettre leur campement à un endroit précis et quelques kilomètres plus loin, y avoir un orage. Ou alors une pluie incessante, etc. Mais à quelques kilomètres d'intervalle, on n'entendait rien. On ne peut pas entendre. On ne peut pas se préparer. On n'a pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En un instant, le lit de la rivière est rempli par un torrent de boue qui emporte tout. Qui emporte tout. En un instant. Et là, si on n'est pas prêt, si on ne s'est pas préparé, on est emporté. Et ils disent que David a vécu cela en faisant cette prière. Parce que le seul salut, quand vous êtes touché par ce torrent de boue qui déferle, c'est de vite, vite, vite aller sur la berge et de s'agripper à un rocher. Et là, vous êtes sauvé. Si, voilà. Parce que seul le rocher pourra vous sauver. C'est pas vous, c'est le rocher. Et c'est une très belle image. Parce que David, dans son humilité, va demander à Dieu grâce. Parce que certainement aussi que lui pouvait s'élever, voir les temps dans lesquels il vivait et se dire, mais c'est trop fort. Là, il va y avoir un torrent de boue qui va se déferler sur le monde, un terrain de choses abominables. Il faut que j'aille vite, vite, vite trouver un rocher pour mon salut. Parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et il y a des moments, on a quelque part quelqu'un qui s'appelle Lot et qui, lui, il a des attirances pour le monde. La tentation est tellement grande, tellement forte. Et d'une manière homéopathique, j'allais dire, eh bien, l'esprit de l'Antichrist veut nous faire lâcher le rocher. Et croire que, eh bien, parce qu'on a été une fois greffé au cep, eh bien, on sera fidèle tout le temps par nos propres forces que celui, hein. C'est quoi le verset? Prenne garde de tomber. Que celui qui se croit fort prenne garde. Prenne garde. C'est d'une manière imperceptible, cet esprit est à l'œuvre pour nous faire lâcher le rocher. Ou juste nous faire reculer, légèrement. mais assez pour nous mettre en danger face à ce torrent de boue qui arrive. Alors, comment être enraciné en Christ? Et c'est là que j'ai été attiré vers ce passage de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Notez bien, il demande à ses disciples. Il ne demande pas à des étrangers, encore moins à des incroyants. Il demande à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et dans l'original, c'est « tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et là, nous avons les deux choses réunies. Soit je construis sur la sagesse, qui dit-on que je suis? Élie? Jérémie? Jean-Baptiste? On voit là que ça manque de conviction, ça manque de profondeur. Les racines ne sont pas dans le roc. Et Pierre de dire, mais tu es le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux situations? Entre les uns qui disent, tu es Jean-Baptiste, tu es peut-être, voilà. Et puis, tout d'un coup, un Pierre qui arrive avec une conviction extraordinaire. Tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus nous le dit, tu es heureux. Parce que tu as vécu, en fait, la révélation de Dieu, la révélation du Père. Ce n'est pas par tes propres forces, par ta sagesse, par ton intelligence et ta compréhension des Écritures. Non, c'est parce que quelque chose de puissant, de surnaturel, de miraculeux t'a été accordé, Pierre. Dieu t'a révélé quelque chose de fondamental pour ta vie. C'est le roc. Et il l'a fait d'une manière miraculeuse, par le Saint-Esprit. Soudain, tu étais aveugle et tout d'un coup, tu vois. La puissance de Dieu est venue te montrer quelque chose de fondamental pour ta vie. C'est venu d'en haut, c'est céleste. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous faire entrer en Christ, dans les profondeurs de Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ par le Père. Et je vais reprendre quelque chose que Jessica disait il y a quelques dimanches, quand elle disait, des fois on a envie de se reconvertir parce qu'on est touché, parce qu'il y a quelque chose qui nous attire de nouveau vers Christ. Et c'est ça, c'est là que le Saint-Esprit a son rôle. C'est lui qui tout d'un coup nous ramène vers le rocher, nous ramène dans le rocher, ou alors nous introduit plus en avant dans le rocher, parce qu'on y est déjà. C'est ça le miraculeux dont nous avons besoin pour tenir. Et c'est ça qui va nous permettre de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est ça qui va permettre à Dieu de produire du fruit. C'est ça que nous devons transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que eux aussi se préparent à la rencontre de leur Dieu. C'est la révélation. La révélation. Et je ne dirai jamais assez, soyons des hommes, des femmes de révélation, et non pas seulement de compréhension des Écritures. Un assemblage de versets bibliques, de doctrines bibliques, certes, c'est une bonne chose, c'est très très bon, mais l'acte final, l'acte miraculeux, la seule chose qui nous fait passer de la mort à la vie, d'une création ténébreuse à une nouvelle création, la seule chose qui change, qui bouleverse nos vies, c'est la révélation de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui nous fait passer d'un monde à un autre. Et ça, frères et sœurs, c'est pas à vivre une fois. C'est d'être comme David. De savoir que, eh bien, toute notre vie, on aura besoin de faire cette prière, conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, parce qu'il y a toujours, toujours des moments où je glisse vers Sodome et Gomorre, où je préfère mes plaisirs à la parole de Dieu. Il y a toujours, on est comme ça. Alors le Saint-Esprit, il remet les choses en ordre, parce qu'on ne peut pas le faire. Et ça, c'est fantastique. C'est la grâce de Dieu. Il sait qu'on ne peut pas. Il sait. Alors il nous remet dans le creux du rocher. Parce que lui, son envie, on l'a dit tout à l'heure, son envie, c'est d'un jour de nous montrer sa gloire. C'est comme ça. Il veut, parce qu'il sait déjà, hein, il sait déjà dans l'éternité où sera notre place, qu'est-ce qu'on fera, il le voit déjà. Il n'a ni commencement ni fin, et il faut bien se dire qu'une fois converti, on a nous aussi quelque chose en nous, l'esprit qui est dans notre esprit, n'a ni commencement ni fin. Avant la création du monde, nous étions déjà connus. Donc, tout est accompli. Mais ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas encore réalisé, c'est nous montrer toute sa gloire. Mais pour ça, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut que je te cache dans le creux du rocher. Sinon, tu mourras. Je suis trop saint. Tu ne pourras pas. Et quand tu auras accepté que je t'enfonce plus profondément dans le creux du rocher, alors tout sera bien, tu seras en sécurité. Parce que quand je regarderai le rocher, je verrai mon Fils, je verrai Jésus. Et comme Jésus a tout accompli pour que toi, tu sois dans la plénitude, eh bien tout sera bien. Tout sera bien. Ça, c'est une grâce énorme, merveilleuse, merveilleuse. Alors, je vais mettre ma main, je vais te protéger. Seulement, il faut que tu m'aides. Il faut un peu de soumission. Il faut de la discipline. Il faut que tu comprennes ta mission première de te préparer à la rencontre. Il faut que tu comprennes de quelle nature tu es faite, que tu as tendance à t'éloigner de ce rocher de salut. Et ça, ben t'as du mal, parce qu'il y a des choses. L'esprit, hein, on parlait de l'esprit de l'Antichrist, il est tellement puissant aujourd'hui, surtout dans nos pays occidentalisés, pour nous divertir. Et il faut bien savoir, j'ouvre une parenthèse que je referme. Il faut bien savoir que le divertissement, c'est ce qui a créé, c'est l'apparition du veau d'or à l'époque où ils ont été délivrés de l'Égypte. La première chose qu'ils ont faite, c'est un veau d'or, une idole. Voilà, c'est l'homme et l'homme. Et il faut bien se dire que cette idole a été faite sur des bases d'adultère, de fornication. Et là, on parle d'adultère spirituel aujourd'hui. Et cet adultère spirituel, c'est avec les démons. La table des démons. Paul nous prévient de ne pas manger à la table des démons. C'est pas pour rien. Ce qui a été fait à Babylone a tendance à prendre le pouvoir, a pris le pouvoir sur le monde, mais va être décuplé. La révélation de Jésus-Christ est une révélation actualisée. Si nos ordinateurs ne sont pas actualisés, si dans nos responsabilités professionnelles, il y a des choses qui ne sont pas actualisées, si dans nos recettes de cuisine, il n'y a pas des choses qui sont actualisées, dans nos vies spirituelles, nous avons besoin d'être actualisés par le Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais pouvoir vous l'offrir, mais je ne peux pas. Je ne peux que vous apporter le conseil, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Je ne peux que vous dire, soyons disposés, rendons-nous disponibles comme Marie. Arrêtons peut-être de nous activer comme Marthe, même dans le service de Dieu, pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir le monde dans lequel on est, c'est de voir comment il va finir, ce qu'il se prépare, et c'est de voir que il me faut absolument le miracle de Dieu dans ma vie pour me préparer pour ces temps, pour le retour du Seigneur. Vous savez que le jugement commencera par sa maison et qu'il y aura un jugement de feu où tout passera par le feu, tout, même nos œuvres, et ne resteront vivants que ce qui est fait de lui, ce qui est par lui et pour lui par son esprit. Le reste, ça sera du chaud, de la paille. Ça sera une maison construite avec des sur du sable. Je ne parle pas du salut, mais je parle de notre responsabilité à véritablement laisser le Saint-Esprit nous introduire plus profondément dans le rocher des siècles. C'est la base de Dieu, c'est la pierre angulaire sur laquelle il fonde le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et la base, la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice doit reposer, c'est Christ. Le Seigneur est mon roc, il est ma forteresse, mon libérateur. C'est mon Dieu, je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier. Il est ma force de salut, il est ma citadelle, il est mon refuge, il est mon éternité, mon salut. Je veux plier le genou. Je veux lui rendre grâce. Je veux lui rendre gloire. Je veux absolument que sa volonté soit faite, que son règne s'établisse dans ma vie, que son nom soit sanctifié. Je veux que toute ma vie passe par sa discipline s'il le faut, mais pour que tout en moi, entre dans ses promesses, entre dans son royaume, dans le pays de la promesse. Tout en moi, tout, frères et sœurs, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, c'est au Saint-Esprit. Je vous propose de prier un instant. Je vais prier pour nous. Nous avons tous besoin, Seigneur. Nous avons tous besoin que tu nous fasses, eh bien, encore grâce. Et si quelqu'un dans la salle croit qu'il ne peut pas être au bénéfice de cette grâce, eh bien, il se trompe. C'est un mensonge, car Christ a tout accompli pour que les hommes puissent vivre cette grâce. Alors ce qui lui manque à cette personne, c'est la foi dans un Dieu qui a tout accompli pour lui, dans la foi dans un Dieu qui lui dit « Tout est prêt, t'as juste à l'accepter ». Mais sache que tout est prêt pour que tu sois dans le roc. Tout est prêt pour que tu passes par le feu du jugement indemne. Tout est prêt pour que tu sois un habitant de la Nouvelle Jérusalem, le palais de mon Dieu, une colonne, un endroit où il pourra enfin te montrer sa gloire, te montrer tel qu'il est. Seigneur, je te prie, et nous te prions tous, de nous faire grâce, et que cette grâce découle sur nos enfants et nos petits-enfants, quel que soit leur parcours, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous plions le genou, nous acceptons de mourir à nous-mêmes, de porter notre croix, de nous consacrer. Seigneur, tu cherches pas seulement des enfants, tu cherches des disciples qui connaissent, qui savent cette guerre, ce conflit cosmique qui règne sur la terre. Jésus béni, s'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, bouleverse nos vies, bouleverse nos raisonnements, bouleverse notre entendement. Toute chose, que tout soit sous le règne du Christ, que tout plie devant le roi des rois, Seigneur, Jésus. Merci pour ta grâce. Amen.
Du message, on peut passer au moment de Sainte-Cène. Est-ce que tu m'entends, Marjo, non? Vous m'entendez? Oui. Dans la continuité du message, on va pouvoir prendre un temps de Sainte-Cène. Je vais peut-être demander à Marc, si tu veux bien, et Étienne, maintenant de m'aider. Et je vais commencer par lire un texte. Dans Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Vous pouvez vous approcher, mes frères. Effectivement,